Bonjour, merci d'être venu en nombre écouter Renaud Barbaras qui nous fait l'amitié de venir à notre rencontre à la Société de philosophie de Bordeaux et dans les salons MOLA. Alors, Renaud Barbaras est professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et il est membre de l'IUF. Sa spécialité d'origine, c'est évidemment la phénoménologie, Merleau-Ponty, Patochka. Il a écrit un certain nombre d'articles aussi sur Sartre. Il a écrit aussi sur Husserl. Mais déjà depuis un certain nombre d'années et depuis l'ouvrage qui s'appelle « Le désir et la distance », il a entrepris une œuvre de phénoménologue en son nom propre. Et l'ouvrage qu'il va nous présenter, « Dynamique de la manifestation », est dans les derniers développements de ce travail. Et donc je lui donne la parole pour une communication qui porte sur l'événement de la finitude.
Bien, avant d'aborder l'événement de la finitude, je voudrais remercier bien sûr la librairie MOLA, la Société de philosophie de Bordeaux, et non pas bordelaise de philosophie, d'après la précision qu'on m'a apportée, et bien sûr Kim Sangong-Vankun pour m'avoir fait l'honneur et l'amitié de parler de ce travail relativement récent. Qui a pour titre en effet Dynamique de la manifestation. Alors mon propos bien sûr n'est pas de résumer l'ensemble de l'ouvrage, qui est un gros ouvrage, mais d'en restituer autant que faire se peut l'intention, le mouvement d'ensemble et quelques conclusions. Alors ma démarche s'inscrit résolument dans le cadre de la phénoménologie, ça a été dit, cadre qui est circonscrit, en tout cas c'est ainsi que je l'aborde, par ce que Husserl nomme l'a priori universel de corrélation entre les temps transcendants, la réalité, pour dire vite, et ses modes de données subjectives. Ça signifie que l'essence de l'étant est d'être relatif à une conscience, c'est-à-dire d'apparaître, sans bien entendu que cet apparaître compromette d'aucune façon la teneur ontologique de cet étant, autrement dit sa transcendance. Cela signifie également que le sens d'être du sujet, de ce qu'on appelle sujet, consiste de part en part à se rapporter à cet étant, c'est-à-dire à la réalité, à le faire apparaître, ce qui revient à dire qu'une conscience qui ne serait pas conscience de quelque chose, bref, intentionnalité, ne serait pas du tout. Toute la difficulté est évidemment de rendre compte du sens d'être ultime des termes de la corrélation, à savoir d'une part de l'étant transcendant, d'autre part du sujet, à la lumière de cette corrélation. Qui finalement indique un primat de la relation sur les termes. Il s'agit en d'autres termes de se demander ce que signifie apparaître, quel est le statut de ce qui apparaît, et enfin, quel est le mode d'être, quel est le statut de celui à qui cela apparaît, c'est-à-dire quel est le statut au fond de l'intentionnalité. Or, en suivant ce fil, que je vais évidemment reprendre, je suis conduit à montrer, de manière un peu, en quelque sorte iconoclaste, que la phénoménologie est vouée à se dépasser au profit d'une cosmologie et d'une métaphysique qui apparaissent alors non plus du tout comme des champs qui lui seraient étrangers, comme on est enclin à le penser, mais au contraire comme des dimensions internes et constitutives de la phénoménologie elle-même. La phénoménologie doit, pour ainsi dire, se dépasser au sein d'elle-même pour être vraiment elle-même, ou intégrer son autre pour être vraiment elle-même. Alors, reprenons donc ce mouvement, et qui finalement est scandé selon trois temps, qui sont les trois parties de l'ouvrage, phénoménologie, cosmologie, métaphysique. Donc, mon but, c'est simplement d'essayer de faire apparaître l'articulation, le mouvement qui me conduit de l'un à l'autre. Alors, reprenons donc les choses au commencement. Pour ce qui est de l'étant transcendant, les choses sont relativement simples. Dire en effet que l'être de l'étant consiste à apparaître, c'est dire à la fois que celui-ci n'est rien d'autre que ses apparitions, au sens où il ne s'agit pas d'une réalité en soi, mais qu'il ne se confond pourtant pas avec elle, pour autant justement qu'il apparaît en elle. Je veux dire que l'apparaître suppose, presque pour des raisons lexicales, enfin en tout cas définitionnelles, suppose une différence entre ce qui apparaît et son apparition, une forme de retrait ou de distance, afin justement qu'une avancée, qu'une venue à la présence soit possible. Cette différence est évidemment singulière, car elle n'implique aucune altérité et ne diffère pas d'une forme d'identité. Elle renvoie une sorte de profondeur interne, d'excès inassignable, qui est constitutive de l'étant dans la mesure où il ne cesse d'apparaître, il ne cesse de venir à la présence. Cette profondeur interne n'est autre que celle du monde, ou de ce que j'appelle monde. L'apparaissant ultime, qui ne se présente qu'en s'absentant toujours de ce qui le présente, ne peut être qu'un monde, Pour autant que le monde est au fond, ce qui excède et contient tous les étangs sans être autre que, c'est-à-dire sans être un grand objet ou un autre étang, hein, pour ainsi dire, cette texture commune qui est à la fois les conjoints et les disjoints. Ça revient à dire donc qu'il n'y a d'apparition que comme co-apparition d'un monde, que c'est toujours un monde qui apparaît dans ce qui se présente, et donc que le monde est l'autre nom de la transcendance pure ou de la profondeur de l'étang apparaissant. Alors, cette première conclusion, cette première remarque conditionne évidemment la suite, puisqu'il s'agit dès lors de se demander ce que doit être le sujet, nom que je donne par convention au pôle subjectif de la corrélation, pour qu'il soit en mesure de se rapporter à un monde, pour qu'il soit sujet d'un monde. D'autre part, deuxième remarque, il est probable que la réponse à cette question aura un effet en retour sur le statut véritable du monde, plus précisément sur la relation, comme on le verra tout à l'heure, entre l'apparaissant et ses apparitions. Donc la question la plus difficile concerne évidemment le sens d'être du sujet. J'ai considéré que celle du monde, celle du statut, de la réalité transcendante, était relativement facile à résoudre. La question donc la plus difficile concerne le sens d'être du sujet. Et c'est sur ce point, comme j'ai montré dans des ouvrages antérieurs, c'est sur ce point que les phénoménologies classiques s'avèrent embarrassées par des préjugés qui sont d'autant plus puissants évidemment qu'ils sont insus et qui renvoient tous à une forme de substantialisme. Or, le sujet est caractérisé par une double détermination. Là-dessus, je ne dis rien d'original. Le sujet a ceci de propre qu'il appartient au monde et qu'il est condition de l'apparition du monde. C'est précisément, comme Merleau-Ponty notamment l'a vu, dans la mesure où il est du monde, qu'il a un monde. Donc, l'appartenance intentionnelle du monde au sujet suppose l'appartenance ontologique du sujet au monde. Or, comme je le signalais, la phénoménologie, y compris chez Merleau-Ponty, en vient finalement à assigner ces deux conditions, appartenance, phénoménisation, ces deux conditions à deux dimensions ou deux versants du sujet. Et en fait, on pourrait le montrer chez tous les phénoménologues. Et à diviser ainsi le sujet, que ce soit sous la forme du partage chez Husserl entre conscience empirique et conscience transcendantale, ou entre chair et conscience, ou chez le dernier Merleau-Ponty, entre chair du monde et chair sentante. Donc ma question est vraiment la question qui constitue sans doute l'axe majeur de mon travail est la suivante. Comment le sujet peut-il, sous le même rapport, appartenir au monde et conditionner l'apparition du monde? Donc il s'agit de dépasser les dualités que je viens de rappeler. Comment donc comprendre son sens d'être de telle sorte qu'à la fois il exige une appartenance et commande la phénoménalité? Eh bien, dans la mesure, je vais vite sur ce point, où nous avons découvert que ce qui fait toujours obstacle à une compréhension exacte du sens d'être du sujet est une forme de positivisme ou de substantialisme, force est de conclure que c'est en pensant le sujet comme négativité que l'on se donnera les moyens de résoudre le problème. Alors, cette négativité ne renvoie pas à un pur néant qui, au fond, dans sa massivité, comporte encore une forme de positivité secrète, mais donc il ne s'agit pas du néant, mais de cette négativité concrète qu'est le mouvement. Se mouvoir, c'est au fond sans cesse se nier comme substance. Le mouvement, c'est l'exclusion concrète de la substantialité. C'est l'exclusion active, si j'ose dire, de la substantialité. Or, ce mouvement, par lequel je propose de caractériser le sujet, eh bien, ce mouvement répond à la double condition que j'ai mise en évidence à l'instant, parce que d'une part, il n'y a pas de mouvement qui ne se déploie au sein d'un monde ou sur le sol d'un monde, et au fond, la négativité du mouvement requiert la positivité de ce sol, mais d'autre part, en tant que mouvement, il diffère radicalement de tous les étangs du monde et peut, dans cette mesure, les faire paraître. Donc c'est le concept de mouvement qui, à mes yeux, permet de réconcilier les deux déterminations que j'ai posées, à la fois, c'est-à-dire à la fois appartenance au monde et condition de l'apparaître du monde. Au fond, être en mouvement, c'est avoir besoin du sol du monde et différer radicalement de tous les étangs mondains. Alors, bien entendu, ce concept de mouvement auquel j'aboutis en un premier temps est lui-même singularisé par la démarche dans laquelle il s'inscrit. Il ne saurait être confondu avec un simple déplacement, si tant est d'ailleurs que cette conception moderne d'un mouvement local qui serait étranger au sens ne soit pas une pure abstraction et une absurdité phénoménologique, mais je ne m'y arrête pas. Donc nous définissons le sujet par le mouvement, mais le statut bien sûr est éclairé, le statut du mouvement est éclairé par la fonction du sujet. Autrement dit, il s'agit d'un mouvement phénoménalisant, d'un mouvement qui ne se déploie pas seulement dans le monde comme un simple déplacement, mais vers le monde, qui demeure pour ainsi dire au seuil du monde, tout en s'effectuant déjà en son sein, qui est donc à la fois pour et par le monde, mouvement intentionnel donc, à condition de comprendre que ce n'est pas là une expression métaphorique, c'est-à-dire c'est l'intentionnalité comme mouvement, hein, dynamisme d'une visée. On l'aura compris, ce mouvement par lequel je propose de définir le sujet échappe radicalement aux partages ontologiques constitutifs de l'époque moderne entre pensée et extension, être auprès de soi, être hors de soi. Pour ainsi dire, le mouvement dont il s'agit, que nous sommes tout simplement, hein, eh bien, le mouvement dont il s'agit est plus haut que le simple déplacement, mais plus bas que la pure représentation. Il serait l'identité d'une avancée et d'une phénoménalisation, un aller vers qui est un faire paraître. Évidemment, je n'échappe pas au vocabulaire dualiste pour dire quelque chose qui échappe au dualisme. Tel serait le mode d'être véritable du sujet qui l'inscrit dans le monde et l'ouvre à lui. Alors ce mouvement peut être, et ça permettra je crois de lui donner plus de sens, peut être spécifié de deux façons. Tout d'abord, précisons qu'il n'est autre que celui du vivre et renvoie donc à un sens originaire de la vie. Et je retrouve ce mouvement dans des ouvrages antérieurs à partir d'un travail sur la vie. En effet, on peut dire du sujet qu'il est vivant en tant qu'il est inscrit dans le monde, au fond qu'il a un organisme, et d'autre part qu'il vit ce monde en tant qu'il en fait l'épreuve. Alors, il se trouve qu'en français, on utilise le même verbe pour dire ces deux situations fondamentales, une situation d'appartenance et une situation d'expérience. L'erreur qui scande l'histoire de la métaphysique serait de référer ces deux aspects à deux dimensions du sujet, voire à deux substances. C'est-à-dire dire d'un côté, nous sommes vivants parce que nous avons un organisme, et d'autre part, nous vivons le monde parce que nous sommes conscience. De la manière la plus naïve qui soit, on pourrait dire ça. Eh bien, l'erreur, c'est justement de s'en tenir là. Au lieu de comprendre que l'être en vie, Leben en allemand, et le vivre, Erleben, vivre transitif, sont deux dimensions dérivées, et donc déjà abstraites, d'un sens plus originaire et plus unitaire du vivre. Et d'une certaine façon, c'est une autre manière de caractériser ce que je cherche à faire, tout mon propos consiste à prendre la mesure et à tirer toutes les conséquences de ce sens premier du vivre, qui est plus profond que le partage entre une vie transitive et une vie intransitive. Ainsi, en ce sens, le mouvement du sujet auquel j'ai abouti n'est autre que celui de la vie, à condition de comprendre que celle-ci est indistinctement le trait d'un vivant et l'épreuve d'un monde. Alors ça veut dire aussi que le moindre vivant vit le monde, c'est-à-dire est un sujet, et que dans l'activité, de connaissance la plus élevée, il y va encore de la vie, c'est-à-dire du corps. Bien entendu, c'est la conséquence la plus immédiate du sens originaire et premier du vivre, comme plus profond que le partage entre faire l'expérience de et être en vie, bien entendu. Donc, en ce sens, la phénoménologie de la corrélation dont je suis parti débouche sur une phénoménologie de la vie, qui était le titre d'un ouvrage antérieur. D'autre part, et telle est la seconde spécification évoquée à l'instant, ce mouvement vivant doit lui-même être caractérisé comme désir. Donc le mouvement, c'est celui-ci de partir du mouvement pour le spécifier comme vie et spécifier cette vie comme désir. Tout d'abord, l'identité de la visée et de la réalisation qui caractérise le mouvement intentionnel ne peut être comprise que comme une sorte d'excès inassignable de la visée vis-à-vis de sa réalisation, sans quoi celle-ci ne serait même pas réalisation mais simple mouvement. Autrement dit, jamais le mouvement n'épuise la visée qui l'habite, dans la mesure précisément où elle n'est pas autre que lui. Si elle était autre que lui, de l'ordre de la représentation, eh bien, il y aurait réalisation et épuisement de la représentation. Et c'est précisément parce que la visée ne diffère pas de sa réalisation qu'elle est d'une certaine façon inépuisable. D'autre part, comme nous l'avons vu en commençant, ce à quoi le mouvement du sujet se rapporte n'est autre que le monde lui-même. Monde que j'ai caractérisé comme profondeur inassignable ou excès irréductible au cœur de l'étang. Dès lors, le sujet est sans cesse arraché à lui-même dans la mesure exacte où il se rapporte à un monde qui arrache l'étang à la pure présence. En ce sens, à la distance inassignable du monde ou à la profondeur inassignable du monde ne peut correspondre qu'un mouvement que rien ne peut apaiser. Il y a une sorte d'infinition ou d'infinité du mouvement qui est le corrélat exact de la profondeur inassignable du monde. À la distance donc inassignable du monde ne peut correspondre qu'un mouvement que rien ne peut apaiser, qui est sans terme et sans fin, qui se nourrit de ce qu'il rencontre, qui est donc aussi inextinguible que le monde comme tel est inaccessible. Alors, ces descriptions sont celles d'un désir originaire, qu'il ne faut pas entendre au sens psychologique du désir pour l'autre, qui est un sens dérivé, hein, mais qui évidemment s'articule à celui-ci. Il s'agit donc d'un désir originaire, caractérisé par le fait que ce qui l'apaise l'exacerbe tout autant, qu'il se nourrit de ce qu'il obtient, comme si les objets qu'il atteint, c'est-à-dire tout simplement les étangs, étaient toujours en défaut d'un autre objet, qui serait l'objet véritable du désir et qui serait tout sauf un objet puisqu'il s'agit tout simplement du monde lui-même. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, il n'y a de désir que comme désir d'un monde. Ce désir, qui est une spécification de la vie, nomme le sens d'être véritable du sujet et correspond au fond à la teneur véritable de l'intentionnalité. C'est le nom que je donne à l'intentionnalité. De sorte que, à la corrélation de la conscience et de l'objet, doit être substituée comme sa condition véritable de possibilité, la corrélation entre une vie qui est désir et un monde qui est profondeur. Et donc au-delà, si vous voulez, plus profond que la corrélation classique de la conscience et de son objet, il faut faire apparaître une corrélation plus originaire entre une vie, encore une fois, qui est désir et un monde qui est profondeur. Alors, avec ces conclusions, qui évidemment relèvent d'une certaine façon d'un rappel, puisque ça occupe évidemment 120 pages dans l'ouvrage en question, se clôt le moment proprement phénoménologique de ma démarche, qui a pour résultat, vous l'avez compris, de désubstantialiser aussi bien le transcendant, sous la forme d'un monde qui n'a rien d'étant, hein, qui est profondeur pure, donc aussi bien le transcendant que le sujet, dont le mode d'existence est mouvement. À ce titre, la phénoménologie à laquelle nous aboutissons peut être caractérisée comme phénoménologie dynamique. C'est en tout cas comme ça que je le comprends, ou que je la présente. Mais la question est de savoir si nous devons et si nous pouvons en rester là, ou si ces résultats ne nous emportent pas, pour ainsi dire, au-delà d'eux-mêmes, si cette phénoménologie dynamique, évidemment la réponse est oui, n'est pas conduite à se dépasser au profit de ce que je nommerais une dynamique phénoménologique. Alors, quelle est la différence? Eh bien, à dire vrai, ce dépassement, je vais le préciser, est requis en quelque sorte d'entrée de jeu par la problématique même de l'a priori de la corrélation, dans la mesure où, au fond, une relation n'est pas pensable, une véritable relation n'est pas pensable, sans la mise au jour d'un terme commun au pôle de la corrélation, et dans la mesure donc, elle n'est pas pensable si on ne se met pas en quête de l'a priori de cet a priori. En d'autres termes, donc ma question, elle porte sur l'a priori de la corrélation. En d'autres termes, les pôles ne peuvent se rapporter, donc le monde et le sujet, ne peuvent se rapporter originairement l'un à l'autre et, pour ainsi dire, exister à partir de ce rapport s'ils ne partagent pas une dimension d'être commune sur laquelle s'enlève la différence, sans laquelle il n'y a pas de rapport. Bref, ce que je veux dire, c'est que plus profondément que le rapport est comme sa condition, rapport dont nous sommes partis et dont nous avons caractérisé les termes, n'est-ce pas ? Eh bien, plus profondément que le rapport est comme sa condition, il y a une communauté d'être et une différence. Une communauté d'être plus profonde et une différence qui doivent être pensées pour elles-mêmes et qui constituent l'a priori de l'a priori corrélationnel. Alors, c'est ici que le sens d'être du sujet, dont la détermination procédait en partie de celle du monde, puisqu'on y a dit au fond que seul un sujet qui est désir peut avoir en quelque sorte la portée d'un monde qui est transcendance pure, eh bien, c'est ici donc que le sens d'être du sujet va avoir un effet en retour sur le statut de ce monde. Nous avons dit que la négativité, cette négativité qu'est le mouvement, ne pouvait se déployer que sur le sol du monde. Bien sûr, il n'y a pas de mouvement qui n'ait un sol. Et que dans cette mesure, le sujet pouvait appartenir au monde et le faire paraître sous le même rapport. C'était la question que je me proposais de traiter. Cependant, il est temps d'ajouter qu'il s'agit là encore d'un sens superficiel de l'appartenance comme inclusion ou inscription, dont on montrerait sans peine, et c'est d'ailleurs ce qui arrive au dernier Merleau-Ponty, qu'elle engage encore un sens objectiviste, du monde. Mais par-delà cette appartenance inclusive, force est de reconnaître un sens plus profond de l'appartenance comme tout simplement communauté d'être. Dire que le sujet appartient au monde, c'est dire qu'il est fait de la même texture ontologique que lui, qu'il en est, et que son propre sens d'être procède de celui du monde. De sorte qu'au fond, on pourrait dire qu'il y a trois manières pour le sujet d'appartenir au monde. Le sujet est au monde, appartenance intentionnelle. Il est dans le monde, au titre du sol requis par sa mobilité. Mais il est du monde, dans la mesure exacte où il tire de lui son mode d'être et où il partage la même texture ontologique. Donc il y a trois appartenances. Le sujet, il est au monde, dans le monde et du monde. Et ça décrit trois types d'appartenance. Il est entendu que l'appartenance intentionnelle du monde au sujet renvoie à l'inclusion, que j'ai traité pour l'instant, qui elle-même renvoie, comme je vais le montrer, à l'appartenance ontologique. Cette appartenance ontologique, je l'appelle hyper-appartenance, pour signifier qu'elle renvoie véritablement à une parenté ontologique, de telle sorte que nous sommes d'une certaine façon au-delà de l'appartenance, faute d'une différence entre le sujet et son sol. Ici, on le voit déjà, nous sommes aux antipodes de la phénoménologie transcendantale, puisque nous faisons valoir par-delà la constitution du monde par le sujet, et comme sa condition évidemment, une forme de constitution du sujet par le monde au titre de sa texture et de sa provenance originaire. Donc on est ici dans un renversement en quelque sorte de la problématique transcendantale. Eh bien, c'est cette hyper-appartenance, cette appartenance radicale, ontologique, qui nous donne accès à l'être de la relation, c'est-à-dire à l'a priori de la corrélation. Dès lors, alors pourquoi ? Comment ce mode d'être du sujet va nous conduire à redéfinir le monde ? Eh bien, tout simplement, dans la mesure où le mode d'être du sujet est de nature dynamique, ce qu'on a établi, et dans la mesure, d'autre part, où il hyper appartient au monde, c'est-à-dire partage avec lui le même sens d'être, force est de conclure que le mode d'être du monde est lui-même de nature dynamique ou processuelle. Ce qui vaut pour le sujet vaut pour le monde en raison de leur parenté ontologique fondamentale. Autrement dit, il faut conclure que notre mouvement s'inscrit dans un mouvement du monde, appartient à un monde qui est en son fond mouvement. Et c'est à cette condition, et à cette condition seulement, que le mouvement phénoménalisant propre au sujet peut ne pas contrevenir à son appartenance. Parce que tout simplement, ce mouvement, le nôtre, vient de plus loin que lui-même. Il est l'œuvre du monde avant d'être celle du sujet, si bien qu'en toute rigueur, ce n'est pas tant nous qui faisons paraître le monde que le monde qui se phénoménalise à travers nous. Il faudra donc comprendre en quel sens ce procès du monde, que je nomme désormais archi-mouvement, puisqu'il s'agit du mouvement qui est tout le mouvement possible, d'ailleurs, du mouvement originaire dont procède notre mouvement, eh bien, il faudra comprendre en quel sens ce procès du monde, que je nomme archi-mouvement, est déjà un procès de phénoménalisation ou de proto-phénoménalisation. Ça veut dire que la phénoménalisation dont le sujet est l'opérateur se prémédite dans une proto-phénoménalisation qui est l'œuvre d'un mouvement du monde. Quoi qu'il en soit, à la faveur donc de la prise en compte de cette hyper-appartenance, c'est-à-dire de l'être de la corrélation, nous sommes conduits, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, d'une phénoménologie dynamique à une dynamique phénoménologique. Pour la première phénoménologie dynamique, le sujet est mouvement. Pour la seconde, tout mouvement est phénoménalisant, dynamique phénoménologique. Tout mouvement est phénoménalisant et en ce sens proto-subjectif. Vous voyez que de l'une à l'autre, il y a un pas énorme à franchir, parce que parler de phénoménologie dynamique, c'est dire, ben, au fond, le sujet existe comme mouvement. Parler de dynamique phénoménologique, ça veut dire que toute théorie du mouvement est une théorie du sujet, ce qui est beaucoup plus radical, évidemment. Ça veut dire que tout mouvement est proto-subjectif. En ce point, on le voit, et c'est en ce point précisément, que la phénoménologie se dépasse vers une cosmologie. En effet, elle nous conduit à une cosmologie, au fond, qui fait signe vers une physis, vers une nature. Elle nous conduit, en effet, à une pensée du monde où celui-ci n'a plus seulement le statut d'une totalité intotalisable ou d'une profondeur inassignable, comme je l'avais dit au début, mais d'un certain procès qui s'apparente, en effet, à celui d'une physis. Alors, je signale en passant, je voudrais noter en passant, qu'en approfondissant le concept de désir, auquel nous avons d'abord abouti, nous obtiendrions le même résultat. Parce qu'en effet, le désir relève toujours de la séparation. Et il renvoie donc toujours à une communauté ontologique avec le désiré. En ce sens, tout désir est désir de soi, ou plutôt quête de soi en l'autre. Tel est précisément ce que nous pourrions nommer la raison du désir. Si le sujet tend vers le monde, et d'ailleurs c'est la seule question, pourquoi le sujet au fond est-il habité par ce mouvement phénoménalisant ? Eh bien, si le sujet tend vers le monde, c'est parce que c'est en lui que repose son être de sujet. C'est-à-dire, non pas ce qui apaiserait le désir, mais un désir qui serait pleinement désir. Le monde, c'est au fond ce qui polarise le sujet au titre d'un désir qui serait absolument et seulement désir. Autant dire donc que le sujet tend vers le monde et le phénoménalise dans la mesure où celui-ci contient, ou plutôt est éminemment, ce que le sujet est déjà à sa façon, à savoir précisément comme mouvement. Donc vous voyez que, en mettant toujours la communauté d'être qui est toujours sous-jacente au désir, bref, en l'abordant sur le versant ontologique, on est conduit à mettre en évidence l'être processuel du monde, ou plus précisément une dynamique qui concentre éminemment ce qui se fait jour dans ce que nous nommons désir. Alors, dès lors, à la lumière de cette dernière remarque, nous pouvons commencer à répondre à la question cosmologique, cette fois-ci, et non plus phénoménologique, de la nature de l'archi-mouvement, en quoi consiste l'être du monde. Donc, en quoi le mouvement du monde se distingue-t-il d'une autre ? Eh bien, il y a une seule réponse possible. Il se distingue d'une autre en ceci qu'il fait être ce vers quoi il tend, de telle sorte qu'en vérité, il ne tend même pas vers quoi que ce soit, faute du moindre écart entre la visée et sa réalisation. Bref, c'est un mouvement ontogénétique, comme dit Patochka. C'est ici que réside la différence encore mystérieuse entre l'être subjectif et l'être mondain. Celui-ci fait être, l'être mondain fait être, c'est-à-dire le procès mondain fait être, alors que celui-là, l'être subjectif, se contente de faire paraître. Celui-ci, l'être mondain, produit ce que celui-là désire. Mais on mesure déjà, dans ce cadre cosmologique, que, du coup, le mode d'être subjectif devra être pensé négativement à partir de celui du monde, que notre mouvement procédera d'une altération ou d'une dégradation, dont la nature reste à préciser, de l'archi-mouvement du monde. Ainsi, pour répondre à la question que je posais, quel est le statut de cet archi-mouvement ? Eh bien, le mouvement du monde ne peut être que le mouvement par lequel le monde se fait monde. C'est le mouvement d'autoproduction du monde, mouvement que l'on pourrait qualifier, en détournant l'usage classique du terme, enfin classique, post-heideggerien, de mondification. De ce procès du monde, donc procès tout simplement par lequel le monde se fait monde. De ce procès du monde, il faut dire d'abord qu'il a toujours déjà commencé. Il renvoie à l'ordre ou au règne du mouvement en tant que celui-ci ne peut avoir commencé. On ne commence jamais le mouvement, on commence des mouvements, mais on commence dans le mouvement. Et en cela, je donne cette précision pour dire qu'il ne relève d'aucune façon d'une création. Il a toujours déjà commencé, bien sûr. Néanmoins, en affirmant qu'il s'agit d'un procès mondifiant, c'est-à-dire tout simplement d'un devenir monde du monde, force est de reconnaître qu'il naît de quelque chose qui n'est pas encore le monde. Or, pour autant que le monde enveloppe nécessairement une multiplicité des temps dont il n'est rien d'autre que la totalité. Il n'y a pas de monde sans pluralité. Eh bien, il faut conclure que le mouvement du monde procède d'un fond indifférencié. De sorte que le mouvement mondifiant, ou le procès du monde, est un procès de sortie hors du fond, de sortie de l'indétermination, bref, un procès de différenciation. Simplement, encore faut-il ne pas hypostasier ce fond, hein, si l'on veut en respecter la dimension d'absolue indifférenciation. Parce que si on l'hypostasie, l'indifférenciation se nie sous forme d'une positivité minimale et d'une détermination minimale. Donc, pour préserver l'indifférenciation du fond, eh bien, il faut que ce fond demeure coprésent à ce qui le résorbe. C'est-à-dire, la sortie hors du fond emporte ce fond avec elle ou est encore transie par le fond. Si le fond restait en deçà de ce qui en émerge, il perdrait son statut de fond et son statut d'indifférenciation. Donc le fond ne demeure indifférencié qu'à la condition de ne pas se différencier du multiple qui en procède, bien entendu. Donc il faut que l'indétermination demeure coprésente au déterminé, c'est-à-dire au monde. Pour autant que le fond donc ne se distingue pas de son propre dépassement, eh bien, il faut le penser comme une puissance de différenciation ou une puissance d'individuation. Puissance, comme au fond le signifie le terme de puissance, qui perdure à même ce qu'elle accomplit, au titre justement de la dimension d'indétermination qui ne cesse de transir les individus. C'est une puissance qui en quelque sorte se nourrit de ses œuvres, hein, qui renaît de ce qui l'épuise. Eh bien, voilà en quoi consiste très simplement l'archi-mouvement du monde, ou la puissance mondifiante, et il maintenant peut préciser et répéter que c'est ce procès que vise notre désir comme une forme plus élevée de lui-même. Il y a donc le monde, il y a donc trois sens du monde, si vous voulez. Il y a le monde comme fond ou puissance, c'est le sens originaire, fond ou puissance, encore une fois, qui est coprésent à ses œuvres. Il y a deuxièmement le monde comme effectuation de la puissance, c'est-à-dire multiplicité produite en ce procès. Et puis il y a enfin le monde comme attestation et sédiment de la puissance modifiante indivisible au sein du multiple déposé par le procès, c'est-à-dire le monde comme totalité. Qu'est-ce que c'est que la totalité ? C'est le sédiment et la trace au sein du multiple de la puissance du fond, hein, en son indivisibilité et son indétermination. Donc il y a trois sens du monde, mais il faut plutôt dire que celui-ci est en son fond l'unité de ce trois, l'unité indivisible de ce trois. Enfin, en affirmant que notre mouvement s'inscrit dans un archi-mouvement dont il procède, on découvre, si je le traduis en d'autres termes, et ça aura des conséquences pour la conclusion que j'aborderai bientôt, eh bien, tout à l'heure, en affirmant donc que notre mouvement s'inscrit dans un archi-mouvement dont il procède, on découvre, ou plutôt on veut dire, que notre vie renvoie elle-même à ce qu'il faut bien nommer une archivie. Archivie qui se confond avec ce procès de mondification. Et cette archivie, elle est éternelle, aussi éternel que le mouvement, au sens où il n'y a d'éternité que comme éternité de vie. Autrement dit, quand on parle de vie éternelle, la seule chose qu'on puisse vouloir dire, c'est qu'il n'y a d'éternité que comme éternité de vie, c'est-à-dire que comme précisément éternité d'un procès, qui est le procès mondifiant, qui par principe ne saurait s'achever. Il n'y a pas d'autre éternité que celle-ci, et c'est en ce sens qu'il faut parler de vie éternelle. Il n'y a de vie éternelle que comme procès mondifiant. Alors, je précise simplement, pour avoir le temps de développer, faute de place et de temps, que cette vie, elle est éternelle parce que tout simplement, elle est étrangère au temps, ou prétemporel, et il est prétemporel parce qu'il est impossible d'y discerner un avant et un après. Et si on approfondit, ou plutôt on poursuit ce que j'ai juste évoqué sur le rapport du fond à ce qui en sort, eh bien on voit bien qu'il y a une sorte de circulation entre l'avant et l'après qui interdit toute temporalisation. On est en deçà de la temporalité, et c'est en ce sens aussi qu'on peut parler de vie éternelle. Alors simplement, avant d'en venir à la troisième étape métaphysique, il reste un dernier problème à résoudre. Je l'ai dit, en vertu même du sens d'une dynamique phénoménologique, l'archimouvement du monde est en même temps un mouvement de proto-phénolisation, puisque c'est le mouvement dont nous venons comme sujet. Ce qui revient à dire que ce n'est pas seulement notre mouvement, mais bien l'être subjectif comme aptitude à phénoménaliser le monde qui s'enracine dans le procès du monde. Autant dire que l'apparaître du monde à un sujet renvoie à une forme d'apparaître intrinsèque du monde. Et ça, seul Patočka a rencontré cette intuition à la suite de Fink. Donc, l'apparaître, disons, subjectif, qui est le sens courant de l'apparaître, renvoie donc à une forme d'apparaître intrinsèque du monde, à un apparaître qui n'est encore apparaître à personne et qui se confond avec le procès de mondification que j'ai tenté d'élaborer. Alors, du coup, il y a une question qui se pose. Il faut comprendre en quoi ce procès, tel que je l'ai décrit, relève de l'apparaître. En quoi nous sommes déjà dans une proto-phénoménalisation. Alors, pour cela, il faut rappeler qu'apparaître signifie sortir de l'occultation et que donc le sens que l'on confère à l'apparaître procède du sens que l'on confère à l'occultation. Or, en vérité, l'occultation est le plus souvent comprise comme recouvrement par une couche interposée, qu'elle soit transcendante ou déjà subjective. Je veux dire que l'être caché, la modalité la plus évidente de l'être caché, c'est l'être recouvert. Que ce soit par, une strate transcendante ou une strate subjective. De telle sorte que l'apparaître consistera toujours en une traversée ou une suppression de la couche interposée, bref, en un dévoilement qui exigera toujours l'intervention d'une subjectivité. Alors évidemment, si on s'en tient à ce sens de l'apparaître, il devient incompréhensible d'affirmer que l'archimouvement du monde soit en même temps un procès de phénoménalisation, c'est-à-dire un procès d'apparaître intrinsèque, d'apparaître anonyme. En revanche, il faut souligner, plutôt, on peut souligner qu'il y a une autre manière d'être occulté, cette fois sans recouvrement, et plutôt en pleine lumière, à savoir par indifférenciation ou confusion avec l'entourage. D'ailleurs, chacun sait que la meilleure manière de cacher quelque chose, ce n'est pas de le recouvrir et de l'enfermer quelque part, mais c'est de le mettre au centre en pleine lumière, et simplement d'être tellement au centre qu'il est indifférencié avec l'entourage. C'est la distinction que Deleuze faisait entre un mystère et un secret. Si vous voulez, ce second régime, c'est le régime du mystère, alors que le premier régime, c'est le régime du secret. Le problème du secret, c'est du manifeste qui renvoie du cachet, qui est fait. C'est pour ça que les secrets sont faits pour être dévoilés, alors que le mystère, il est évidemment impénétrable, puisqu'il n'y a rien à dévoiler. Tout est là, et en même temps, je veux dire, c'est dissimulé. Pourquoi ? C'est dissimulé comment ? Par indifférenciation avec l'entourage. Et donc voilà la seconde manière d'être occulté. Du coup, la désoccultation consistera en une différenciation, une délimitation, une séparation avec l'entourage, bref, en une définition, pour autant que celle-ci engage une frontière, finis en latin. Or, telle est exactement l'œuvre du procès de modification. Il consiste en une différenciation, c'est-à-dire une individuation, par laquelle les étangs, je l'ai dit, se distinguent du fond en se distinguant les uns des autres. L'œuvre séparatrice du mouvement relève donc d'une forme de synthèse matérielle, hein, par laquelle l'individu est constitué comme tel et, en tant qu'individué, paraît. Ce que je veux dire ici, c'est que l'individuation signifie un apparaître. Simplement, à condition de comprendre qu'apparaître ici signifie être désocculté, non pas par retrait de la couche interposée, mais par différenciation avec l'entourage, par définition. Alors, toutes ces analyses et cette seconde strate cosmologique nous conduisent ou convergent vers une seule question, aussi impérieuse qu'elle est difficile. Qu'en est-il alors, désormais, du sujet dans ce procès mondain ? Plus précisément, comment émerge-t-il de ce procès ? Parce que vous voyez, on est parti d'une relation entre des termes, on s'est interrogé sur le statut des termes, et puis ensuite on a dépassé les relations vers un fond commun processuel que j'ai appelé archi-mouvement du monde. Et puis on a dit simplement que tout ce que nous sommes, hein, notre puissance subjective, s'enracine dans et doit tout à cet archi-mouvement du monde dont j'ai montré rapidement que c'était non seulement un mouvement, mais que c'était un procès phénoménalisant. Eh bien, la question maintenant, c'est comment ce sujet peut-il émerger de ce procès ? En effet, jusqu'ici, nous avons procédé à une démarche régressive qui a consisté à revenir du sujet, compris comme mouvement, au monde qui est le sol ontologique, qui est la source dynamique de ce sujet. Donc, mouvement régressif, on est parti du mouvement du sujet vers, et on en est venu à l'archi-mouvement du monde. Mais maintenant, il faut reconquérir notre point de départ, c'est-à-dire procéder à une démarche progressive qui remonte du monde, évidemment à la lumière des nouveaux acquis, qui remonte du monde vers le sujet et tente de rendre compte de la singularité du sujet à partir des traits du monde. En d'autres termes, s'il est vrai que la corrélation exige un être commun, un sol ontologique partagé, dont j'ai dit maintenant que c'était celui d'un archimouvement, il n'en reste pas moins qu'il ne saurait y avoir de corrélation sans différence, et donc que la différence du sujet doit être engendrée à partir du procès du monde. Alors, en quoi cette différence consiste-t-elle? Évidemment, nous avons évidemment des éléments pour répondre mieux qu'au début à cette question. Eh bien, à la lumière de ce qui précède, il apparaît que rien de positif ou de déterminé ne peut fonder cette différence. Le sujet, bien sûr, ne possède rien de plus et rien d'autre que le monde. Ici, on se démarque évidemment brutalement, si j'ose dire, abruptement, de toute une tradition. En effet, non seulement le mode d'être du sujet est celui de cette négativité concrète que j'ai nommé mouvement, mais tout le positif de cette négativité réside du côté du monde, à savoir dans son mouvement mondifiant et dans la surpuissance qui le caractérise. Autrement dit, toute la puissance est du côté du monde et tout le mouvement est du côté du monde. Donc, de ce point de vue-là, il ne nous reste, si j'ose dire, que la négativité ou que du négatif. Il s'agit alors de comprendre comment notre mouvement peut différer de celui du monde, alors même que tout mouvement repose en celui-ci, qu'il est tout le mouvement. En d'autres termes, comment penser une différence au sein de l'archimouvement du monde qui ne se confonde pas avec celle des mouvements des étangs intramondains en lesquels il s'affirme et se manifeste et manifeste sa puissance modifiante? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse possible, qui est appelée évidemment par la position même du problème, comme toujours, il n'y a qu'une seule réponse possible. L'archimouvement du monde ne peut différer de lui-même en lui-même que sous la forme négative d'une privation ou d'une limitation. De sorte que l'être du sujet renvoie nécessairement à un défaut ou à une perte vis-à-vis de celui du monde. En vérité, donc il y a infiniment moins dans le sujet qu'il y a dans le monde. Il y a infiniment moins dans le mouvement du sujet qu'il y a dans la puissance modifiante. Et d'ailleurs, l'examen du désir, à nouveau, nous aurait conduit à la même conclusion. Parce que si celui-ci renvoie à une communauté ontologique, je l'ai dit tout à l'heure, en quoi il est recherche de soi en l'autre, il ne reste pas moins que le désir ne tend vers cet autre, et insatiablement, que parce qu'il en est séparé irrémédiablement. Le fait du désir, le fait métaphysique du désir, si vous voulez, c'est celui d'une scission affectant le sujet, en vertu de laquelle il est, encore une fois, irrémédiablement séparé de son être véritable, qui n'a pour lui désormais que le visage d'un autre inaccessible. Donc la condition ontologique originaire du désir, c'est celle de l'exil. Dès lors, comprendre le sujet, c'est prendre acte d'une forme de scission ou de sécession originaire par laquelle l'archimouvement tombe en dehors de lui-même, se sépare de sa propre puissance pour ne se poursuivre en lui-même que sous une forme affaiblie ou atténuée de lui-même. Le propre de nos mouvements subjectifs, au fond, est que, à la différence de l'archimouvement, est qu'ils ne produisent rien. Leur différence, c'est leur impuissance. Et au fond, on pourrait dire que l'être du sujet, c'est l'impuissance. Et que le désir naît de cette impuissance ou est l'autre versant de cette impuissance. Mais simplement, ajoutons que le désir ne paraît qu'à la faveur de cette impuissance, qu'il ne se présente qu'à défaut de pouvoir être, ou plutôt que le désiré, pardon, ne se présente qu'à défaut de pouvoir être, qu'il est visé dans la mesure où il ne peut être produit. Autrement dit, l'être apparaissant du désiré est la contrepartie de son incapacité à être produit. Et c'est ici que la surgit la différence entre la puissance modifiante et le mouvement du sujet. Je veux dire par là que notre impuissance signifie une puissance, la puissance de faire paraître. Notre puissance de faire paraître est l'envers de notre impuissance. Le monde, en vertu de sa surpuissance, fait être, et notre mouvement fait paraître à défaut de pouvoir faire être. C'est-à-dire, il y a vraiment une puissance de cette impuissance qui n'est rien d'autre que la phénoménalisation subjective. Alors, quel est le statut maintenant, enfin, de cette scission originaire par laquelle la puissance modifiante, bref, l'archimouvement du monde, se sépare d'elle-même et ainsi se finitise? Eh bien, force est de constater que si elle affecte en profondeur l'archimouvement du monde, rien en lui, rien dans cet archimouvement ne peut rendre compte, ne peut rendre raison de cette scission, pour autant tout simplement qu'il est positif de part en part, pure affirmation ou incessant développement. Autrement dit, rien au sein du mouvement du monde ou de ce mouvement qu'est le monde ne permet de comprendre que ce mouvement se scinde pour tomber hors de lui-même. En d'autres termes, purement théoriques, l'essence ne peut jamais rendre compte de sa propre privation. Et pourtant, il y a un mode d'être incontestable, le mode d'être subjectif, qui est caractérisé par cette privation. Alors, la conclusion s'impose. Vous voyez que la situation, il s'agit d'une scission qui affecte l'archimouvement du monde et qui ne peut pas être l'œuvre de l'archimouvement. Donc, là aussi, les conditions du problème donnent la solution. Une conclusion s'impose. Eh bien, affectant le mouvement du monde sans en procéder, la scission dont naît le sujet est un événement. Non pas un mouvement, mais un événement. Et même un archi-événement, puisqu'elle affecte de part en part l'archi-mouvement lui-même. Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? Eh bien, un événement, c'est un mouvement dans le mouvement. C'est ce qui vient affecter la mobilité du mouvement sans trouver en elle sa source. Le propre de l'événement, en effet, c'est qu'il est sans cause ni raison. C'est un surgissement que rien n'explique. Et ici, on est exactement dans ce cadre-là, puisque rien dans la puissance du monde ne peut expliquer cette scission. D'autre part, en tant qu'il n'est le produit de rien, il ne peut non plus être que quoi que ce soit de positif. Il n'est rigoureusement rien. Et c'est ce rien que désigne la privation dont le sujet procède. Enfin, dire qu'il n'est rien en lui-même ne signifie pas qu'avec lui, rien ne se passe. Au contraire, avec l'événement, tout change. Vous voyez, c'est un rien qui est sans cause et par lequel tout change. C'est-à-dire par lequel se trouve modifié de part en part ce qui l'affecte. Donc, par l'événement, tout change. Il se lie dans ses effets, précisément dans la transformation qu'il entraîne au cœur de l'archi-mouvement du monde. Et au fond, l'événement n'est rien d'autre que cette transformation d'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de raison. On ne peut pas le déterminer en lui-même parce qu'il n'est rien, et pourtant tout a changé. C'est ça un événement. D'ailleurs, si vous pensez à ce que c'est qu'un vrai événement historique, c'est sans doute ainsi qu'on pourrait également le caractériser, même si les caractérisations que j'en propose ont à voir avec Henri Maldinet, comme vous le savez, est mort dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, en ce sens, la subjectivité comme scission, et donc privation de l'archipuissance du monde, renvoie à un archi-événement affectant l'archipuissance, et la subjectivité n'est rien d'autre que cet archi-événement. Ça signifie d'abord que la subjectivité est cela même dont on ne peut rendre raison. C'est la conclusion qu'il faut en tirer. Loin d'être, et là je suis aux antipodes évidemment, d'une certaine tradition métaphysique, loin donc d'être, comme toute la tradition l'a voulu quasiment, le siège ou le site de la raison, dans la perspective que j'élabore ici, elle est au contraire la subjectivité, le sans-raison par excellence, c'est-à-dire ce qui procède d'une archi-scission événementielle ou d'une scission archi-événementielle. D'autre part, en affirmant cela, au fond, et d'où le titre de mon propos, si j'essaie de retenir l'inspiration, le noyau métaphysique de mon propos, ben, je ne fais rien d'autre que conférer un statut événementiel à la finitude et un statut métaphysique à la finitude. Autrement dit, ce n'est plus la finitude qui est un trait du sujet, mais le sujet qui est un trait, ou plutôt l'œuvre même de la finitude, d'une finitude qui affecte la puissance du monde. Autrement dit, c'est parce que la finitude, vient affecter le monde que nous existons comme sujet. Mon idée, si vous voulez, ici, enfin l'intuition, comme toujours, c'est après qu'on comprend l'intuition qui commande tout ça, parce qu'il faut la conquérir en quelque sorte, et bien l'intuition, c'est que la finitude a un statut non pas anthropologique, mais métaphysique, et que la finitude dite anthropologique est dérivée par rapport à une finitude que je vais nommer métaphysique, et qui n'est rien d'autre que je construis, que je détermine comme scission archi-événementielle venant affecter l'archi-mouvement du monde. Eh bien, avec cet archi-événement, nous franchissons cette fois le seuil de la métaphysique. Et nous quittons donc le seuil de la cosmologie, pour autant que ce qui est ici en jeu n'est autre que, le sujet de la corrélation, il faut souligner que cette dimension métaphysique est appelée par la phénologie elle-même en son exigence la plus radicale. Autrement dit, contrairement à ce qui se dit dans la perspective husserlienne stricte, il n'y a aucune ici incompatibilité, bien au contraire, entre métaphysique et phénologie. La métaphysique, elle est appelée par la phénologie. Alors pourquoi métaphysique ? D'abord parce que nous nous situons ici sur un plan qui n'est plus celui de l'essence et donc de l'ontologie, c'est-à-dire au sens strict de la phénologie, l'ontologie concerne l'essence, les essences régionales, les essences en général. Ici, nous sommes hors de l'essence et donc nous sommes hors de l'ontologie. On pourrait dire que la métaphysique excède la cosmologie comme l'événement excède l'essence. Même si cette essence est de nature dynamique, c'est une essence. D'autre part, dans la mesure où ce dont il s'agit n'est autre que le fait du sujet, ou le sujet comme archi-fait, archi-fait qui, aux yeux de Husserl lui-même, et ici je me revendique, au fond, je rencontre la perspective husserlienne, archi-fait qui, aux yeux de Husserl lui-même, fait l'objet du métaphysique en un sens très spécial, dit-il. Bien sûr, très éloigné de son acception classique, puisque ce sens ne renvoie pas à la recherche d'une raison ou d'une cause. Donc pour Husserl, il y a l'idée qu'on découvre avec la recherche, avec la détermination du sujet comme archi-fait, une métaphysique en un sens très spécial. Eh bien, en ce sens, je reprends à mon compte le concept de métaphysique. Simplement, à mes yeux, le sens de l'archi-fait, c'est le terme est husserlien, ne peut être que celui de l'événement, justement. Pour autant qu'un fait vraiment pur, un fait vraiment pure n'est même pas un fait, faute de posséder la moindre essence, y compris celle de la facticité elle-même. C'est-à-dire, un fait pur, c'est un fait qui n'est même plus un fait, puisqu'il n'a même plus la détermination essentielle minimale de la facticité. Et donc, un fait vraiment pur, c'est un fait qui n'est autre qu'un pur surgissement, que j'ai nommé précisément événement. Et donc, en ce sens, je reprends à mon compte, à cette rectification près, je reprends à mon compte la détermination husserlienne de la métaphysique. Ainsi, cette métaphysique qui inaugure la découverte de l'archi-événement est très éloignée de ce que nous entendons par ce terme. S'il y a une métaphysique du sujet, hein, c'est au sens où celui-ci n'est rien que l'événement d'une scission au sein de la puissance du monde. Et donc, en une sorte d'inversion ou de radicalisation du néoplatonisme, il faudrait dire que l'être du sujet n'est autre que celui d'une chute du monde en lui-même. Et donc, évoquant ces questions, Jean-Luc Marion vient me dire, mais en fait, ce dont vous parlez, c'est de la création, on ne peut pas plus se tromper, puisque d'une part, il ne s'agit pas d'une création, mais plutôt de quelque chose de l'ordre, d'une, je ne sais pas comment nommer ça, d'une émanation, d'une procession, d'une chute, et puis d'autre part, les pôles en sont inversés, parce que d'une certaine façon, le sujet, il procède d'une chute du monde hors de lui-même, hein, d'une privation, le sujet, il est privé de la puissance du monde. Donc, on ne peut pas être plus loin de ce que Jean-Luc Marion prétendait que je disais. Alors, comme nous l'avons souligné plus haut, et je m'achemine vers ma conclusion, comme nous l'avons souligné plus haut, la démarche donc, dont nous venons de dessiner le mouvement n'est complète, bien sûr, que si l'on parvient à rendre compte, à boucler la boucle, c'est-à-dire à rendre compte de l'apparaître proprement dit subjectif au titre d'une modification qui vient affecter les états mondains en leur apparaître anonyme. Et il s'agit de rendre compte de ce, ben voilà, de l'apparaître subjectif à partir de la singularité de notre mouvement. Alors, on a montré, on a esquissé l'idée, je ne m'y arrêterai pas très longtemps, qu'au fond, notre puissance phénoménalisante vient de notre impuissance. Autrement dit, le statut de l'apparaître, c'est celui du désiré, alors que le statut de l'être, c'est celui du produit, tout simplement, par l'archipuissance du monde. Le statut de l'apparaître comme tel, c'est celui du désiré. Je veux dire que c'est en sa singulière présence, transi d'absence, en son être toujours à distance, ou encore en son absence déterminée, que consiste l'être de ce qui n'est pas, mais simplement apparaît. Donc on pourrait faire une genèse, et c'est ce que je fais évidemment ici, dans ce livre, une genèse de l'apparaître comme tel, à partir du désiré, par différence avec l'être véritable, qui, encore une fois, est être produit par la puissance du monde. Et c'est en ce sens que notre capacité à faire paraître est l'envers de notre impuissance. Et l'envers de notre puissance, c'est-à-dire, est l'envers de notre désir, tout simplement. Alors, simplement, attachons-nous, en guise de conclusion, à quelques conséquences de cette dernière étape métaphysique de notre analyse. Si l'archi-mouvement du monde est celui d'une archivie, je l'ai dit tout à l'heure, donnant lieu à des étangs au sein desquels perdure sa surpuissance, et si les vivants ne sont-elles vivants qu'en raison de cette scission événementielle affectant l'archivie, eh bien, force est de conclure que nous sommes vivants en raison de l'absence et non pas de la présence de la vie en nous. Autrement dit, nous sommes des vivants, je dis bien des vivants individués, en raison de cette scission et de cette privation vis-à-vis de l'archivie. Et donc, en toute rigueur, nous sommes vivants, non pas en raison de la présence de la vie en nous, mais en raison de son absence, en tout cas relative. Autrement dit, il y a deux régimes d'individuation. L'individuation n'est pas une, mais deux. Il y a une individuation par différenciation, par et au sein de l'archivie. Ça donne les états mondains non vivants. C'est au fond la nature non vivante. Et l'autre, individuation, par séparation de l'archivie au sein d'elle-même, bref, par privation de la vie. Et cette individuation par privation de la vie, elle donne les êtres vivants. Ça revient tout simplement à dire que l'avènement du vivant, c'est celui de la mortalité comme telle, et que son individuation est toujours l'envers d'une désindividuation inéluctable par retour à l'archivie. Autrement dit, d'une certaine façon, notre naissance est une mort et notre mort une naissance. Notre naissance est une mort quant à l'archivie, hein, et notre mort est une naissance comme par coïncidence et retour à l'archivie. Il y a un croisement qui s'opère, et donc, comme le disait Munier commentant Rilke, de ce point de vue-là, la mort est derrière nous. Voyez. Alors, d'autre part, de cela découle, deuxième remarque conclusive, de cela découle l'impossibilité de la biologie comme telle, comme science des vivants. En effet, la biologie est toujours déjà manquée, par défaut dans une cosmologie qui concerne une vie qui n'est encore la vie de personne, la vie d'aucun vivant, et par excès, dans une métaphysique phénoménologique pour laquelle tout vivant est déjà un sujet capable de phénoménalisation, bref, un existant. Ce qui veut dire que le pur vivant est introuvable. Ça n'existe pas, un pur vivant. Soit il n'est pas un vivant, c'est un vivant, c'est-à-dire c'est l'archivie, soit il est déjà un sujet. Soit il est encore immergé dans l'archivie, soit il fait paraître un monde. Autrement dit, il n'y a que l'archivie et des sujets, il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de pur vivant. Donc la biologie est infondable philosophiquement. Troisième lieu, la différence entre l'homme et l'animal ne peut être comprise qu'à travers la manière dont l'un et l'autre s'inscrivent encore dans l'archi-mouvement du monde et s'en trouvent séparés par l'archi-événement. La première dimension domine chez l'animal, je veux dire celle de l'archi-mouvement, pour autant qu'il dérive dans le monde, comme l'a montré Rilke, qu'il est plutôt mouvement que conscience, en quoi il est un être fondamentalement cosmologique. L'animal, il est affecté, il est individué, il est affecté par la séparation, mais au fond, il est encore très près de l'archi-puissance du monde, il dérive dans le monde, voyez, et c'est pour ça qu'il est plutôt mouvement que conscience dans ce modèle fondamental qu'elle désire, il est plutôt du côté du mouvement que de la conscience. C'est pour ça que je le caractérise par l'exode. La seconde dimension, celle de la scission, domine chez l'homme, et c'est pourquoi il est un être métaphysique. Nous sommes des êtres métaphysiques, les animaux sont des êtres cosmologiques. L'homme existe comme conscience plutôt que comme mouvement. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui prend de plein fouet, si j'ose dire, l'archiscission événementielle, alors qu'elle est amortie chez l'animal. Donc, c'est pourquoi je propose de caractériser l'homme par l'exil, par différence avec l'animal, que je conceptualise sous le terme d'exode. Enfin, en tout dernier lieu, eh bien le statut de la mort s'en trouve, je l'ai indiqué déjà, profondément transformé, puisque celle-ci est tout simplement synonyme de désindividuation, c'est-à-dire de retour à l'archivie. Mourir, c'est revenir à la vie. Mourir, c'est perdre une vie pour revenir à la vie. Elle est perdre d'une vie, mais pas perdre de la vie. Mourir, c'est se défaire d'une vie pour revenir à la vie. Et de ce point de vue, notamment, peut se justifier l'affirmation de l'identité absolue de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, telle que Freud les a thématisées. Je vous remercie de votre attention.